mi nombre es Susan Saavedra.
C'est pas du vent.
Buenos días, mi nombre es Hernán Castrillón.
Le magazine de l'environnement sur RFI.
Buenos días para todos. De antemano, muchas gracias por su participación en el evento.
Bienvenue à ceux qui nous rejoignent pour cette deuxième partie d'émission. En Oklahoma, au sud des États-Unis, la terre tremble souvent, beaucoup plus souvent qu'auparavant, entre 3 et 4 séismes par jour. Le coupable, ce serait le gaz de schiste, plus précisément les extractions de ce gaz non conventionnel qui a explosé dans la région depuis les années 90. On dénombre d'ailleurs aujourd'hui plus de 4000 puits de forage dans cet état. Et ce n'est pas le seul reproche qui est imputé au gaz de schiste, accusé aussi de polluer l'air et les nappes phréatiques. Malgré tout, Donald Trump a annoncé récemment la reprise prochaine des forages aux États-Unis, alors même que la France débat ces derniers jours pour faire voter une loi qui interdit définitivement son extraction. Alors quel avenir pour le gaz de schiste? C'est notre question d'aujourd'hui. Et nous sommes en compagnie de Juliette Renaud, chargée de campagne sur les industries extractives auprès de l'ONG Les Amis de la Terre. Bonjour.
Bonjour.
Et nous sommes également avec Mathieu Ozano, directeur du Shift Project, une association qui pousse à la transition énergétique. Il est l'auteur du blog du Monde Oilman, chronique du début de la fin du pétrole, et du livre Or Noir, la grande histoire du pétrole. Bonjour.
Bonjour.
Gaz de schiste, pétrole de schiste, gaz de couche, gaz conventionnel, non conventionnel, gaz de houille, huile de schiste. Les terminologies sont nombreuses, mais on ne sait pas toujours très bien de quoi il s'agit. Alors pour bien clarifier les choses, Juliette Renaud, quand on parle de gaz de schiste, on parle de quoi ?
Alors en fait, le gaz de schiste, donc, c'est un des hydrocarbures non conventionnels. Alors le gaz en lui-même, c'est le même gaz que le gaz conventionnel qu'on extrait. Mais là,
donc le gaz naturel.
Voilà, le gaz naturel. Mais au lieu d'être dans des grands réservoirs, on a ici des petites bulles de gaz qui sont enfermées en fait dans la roche-mère, dans le schiste. Et donc qu'il faut fracturer pour pouvoir extraire.
Donc c'est du méthane, hein ?
Exactement.
Et donc cette méthode d'extraction, en fait, c'est là que se situe le problème ?
La méthode d'extraction, c'est un des problèmes. L'unique méthode qui existe aujourd'hui, c'est la fracturation hydraulique. Donc, on injecte à très forte pression un mélange de millions de litres d'eau et de produits chimiques pour, comme je disais, fracturer la roche et libérer ces bulles de gaz et donc libérer le gaz. Le problème, c'est que quand on fracture cette roche, il y a d'autres produits qui peuvent se libérer, comme des substances radioactives qui peuvent remonter. Le gaz peut aussi partir par des failles qui ne sont pas celles du puits par lequel on récupère le gaz. Et donc tout cela, ça crée un grand nombre de pollutions, que ce soit souterraines, des nappes phréatiques, mais aussi en surface, des pollutions de l'air. Et surtout, une chose dont on parle peu, c'est l'impact climatique, donc en termes de gaz à effet de serre, en fait.
Mathieu Ozano, est-ce que vous avez déjà eu l'occasion d'aller sur un site d'extraction de gaz de schiste ?
Ouais, notamment dans le Colorado. En fait, il faut préciser tout de suite que l'essentiel de l'extraction par fracturation hydraulique, c'est quelque chose qui se passe aux États-Unis, avec des conditions légales qui étaient déjà permissives et qui vont le devenir probablement plus que jamais avec l'arrivée du président Trump. Et puis aussi le fait que bien souvent, ces pétroles sont exploités dans des zones peu denses en général, ce qui permet dans des États comme le Dakota ou en Pennsylvanie de se départir de l'opposition locale, ce qui est beaucoup plus compliqué quand on veut faire la même chose en Europe, en particulier en France ou en Angleterre, où bien souvent ces ressources géologiques se situent sous des zones qui sont assez, voire très densément peuplées.
Quels sont, vous, les dégâts qui vous paraissent les plus marquants en ce qui concerne le gaz de schiste? Vous qui connaissez bien les autres exploitations fossiles, qu'est-ce qui caractérise pour vous le gaz de schiste?
C'est plus embêtant encore que le reste. Il faut bien comprendre que le gaz et le pétrole de schiste font partie des pétroles non conventionnels, c'est-à-dire de pétroles qui sont plus compliqués à exploiter que le pétrole conventionnel, donc qui demandent beaucoup plus de capitaux. Ça veut dire concrètement plus de matériel, plus d'énergie, plus d'intrants, d'eau par exemple, ou de vapeur d'eau, plus de produits chimiques. Donc c'est plus polluant que les autres formes de pétrole. Donc ça, c'est un premier problème qui est majeur. Mais disons que ça n'est que une forme d'exploitation d'énergie carbonée qui pose le problème beaucoup plus vaste, qui est le problème du climat, d'une part, et de l'épuisement de ces ressources, tôt ou tard, même le gaz de schiste, même le pétrole de schiste. On ne sait pas trop combien de temps les Américains pourront l'exploiter, d'autant qu'ils l'exploitent très vite et très intensément. Et plus vite on vide un verre d'eau, plus vite il est vide. Donc c'est le problème du tarissement et c'est le problème du climat. De ce point de vue-là, les pétroles et gaz conventionnels marquent simplement une étape de plus dans cette longue histoire où finalement, plus le temps va passer, plus on va être obligé d'aller chercher le pétrole et le gaz sous des formes polluantes, compliquées, extrêmes. Donc dans les pétroles non conventionnels, effectivement, donc il y a les pétroles et gaz de schiste, mais il y a aussi le sable bitumineux en Alaska. On peut ranger dans cette catégorie également les pétroles qu'on va chercher à très grande profondeur au large du Brésil aujourd'hui, peut-être demain en Arctique. Voilà, c'est parce que l'industrie n'a pas le choix, parce qu'on a épuisé beaucoup de champs de pétrole conventionnel classique, que l'industrie du gaz et du pétrole est contrainte et forcée d'investir beaucoup plus et donc de polluer beaucoup plus pour aller chercher ces pétroles non conventionnels.
Alors, en ce qui concerne le gaz de schiste, Juliette Renaud, vous disiez que les émissions de gaz à effet de serre qui étaient dangereuses. Est-ce qu'on connaît les impacts sur la santé de ce gaz de schiste pour les populations, par exemple, qui vivent autour des sites d'exploitation?
Oui, alors un point de plus qui n'a pas été mentionné, c'est aussi la question de l'occupation territoriale. Parce que, comme on disait, c'est pas des poches concentrées, on a juste besoin de faire un puits et sur lequel on extrairait du pétrole ou du gaz pendant des années. Là, on a besoin à chaque fois de faire un grand nombre de puits. Donc on a un puits tous les kilomètres. Et donc déjà, en termes d'occupation territoriale, ça occupe beaucoup plus d'espace. Et ça, en effet, ça va aussi beaucoup plus proche souvent des habitations et des lieux de vie. En termes sanitaires, finalement, on retrouve un peu les mêmes impacts qu'on a sur l'exploitation de d'hydrocarbures conventionnels. Mais là, avec, dans le cas des gaz de schiste, un plus grand nombre de cas de pollution, notamment des nappes phréatiques, dues à des problèmes notamment de cimentation des puits, parce que ces puits sont aussi beaucoup plus sollicités par ces méthodes qui sont beaucoup plus agressives. Donc cette fracturation hydraulique, le niveau de pression qui est utilisé, etc. Tout ça, ça fait qu'on a beaucoup plus de pollution. Il y a aussi, comme je disais, beaucoup plus de fuites de méthane et d'autres polluants qui se retrouvent à la fois dans l'eau, dans les sols, dans l'air, et tout ça, ces pollutions, que ce soit des pollutions de l'eau et des pollutions de l'air, ça crée en effet des impacts sur la santé des populations. On a un retour d'expérience en effet sur les États-Unis, où ça fait déjà un certain nombre d'années que c'est exploité, et il y a tout un réseau de professionnels de santé qui chaque année publient de nouvelles études sur ces impacts sanitaires qu'ils constatent sur le terrain, parmi les populations qui sont proches de ces puits.
Et en revanche, en ce qui concerne le fait que ça pourrait provoquer des séismes, là il n'y a pas de lien avéré, c'est juste des hypothèses.
Non, là aussi, il y a un certain nombre d'études qui ont montré les liens. Il y a plusieurs causes qui sont mises en avant, notamment ce qui est la réinjection en fait, des eaux de reflux en fait, qui remontent. Et quand elles sont réinjectées, ça, c'est une des choses qui crée des séismes. Et ça, encore une fois, on l'a vu aux États-Unis, mais aussi dans d'autres endroits, notamment en Amérique latine, où c'est une autre zone de développement des hydrocarbures non conventionnels.
Alors, vous parlez de l'Amérique latine, justement, vous êtes allé en Patagonie, où Total tenter d'exploiter un site qui était un site naturel et protégé.
L'Argentine, ce que tout le monde ne sait pas, c'est que c'est le deuxième potentiel au monde en termes de gaz de schiste. Donc c'est un peu le nouvel Eldorado où toutes les grandes majors pétrolières se sont rendues après les États-Unis. Et là, en termes de développement, on a Chevron et YPF, la compagnie nationale, qui sont avancées sur un projet de pétrole de schiste. Et on a Total, qui est une des compagnies qui a le plus de permis en gaz de schiste. Donc on avait fait campagne en 2014 parce qu'ils avaient fracturé un puits dans une aire naturelle protégée. Donc ils ont abandonné ce puits après la pression qu'il y a eu, mais ils détiennent encore aujourd'hui 3 de leurs permis qui sont limitrophes avec cette aire naturelle protégée et qui sont en train de continuer de développer. Ils ont encore annoncé là à Davos des investissements de 500 millions de dollars par an.
Mathieu Zano, qu'en est-il du continent africain ?
Alors, il y a un potentiel en Algérie, avec des oppositions des populations locales tout à fait réelles. Ce qui est intéressant dans le contexte de développement de ces ressources, c'est que pour l'Algérie, le pétrole est une ressource, c'est la première ressource de devise, c'est vital pour la pérennité de l'État tel qu'il est aujourd'hui en Algérie. La Sonatrach, la compagnie nationale algérienne, est confrontée à un déclin de sa production de pétrole conventionnel et de gaz conventionnel. Donc quelque part, ils sont dos au mur, et s'ils veulent maintenir cette manne des hydrocarbures, il leur faut, de gré ou de force, développer les pétroles non conventionnels. Mais l'ironie de l'histoire, c'est que quand on discute avec les géologues, les spécialistes de ces ressources, ils vous disent qu'il y a très peu de chances que les pétroles non conventionnels, gaz et pétrole de schiste, puissent, pour des raisons bêtement géologiques, compenser le déclin du pétrole conventionnel et du gaz conventionnel en Algérie.
Ce soleil, ce soleil, ce soleil, ce soleil.
Des questions, des témoignages, des idées? Écrivez-nous à c'estpasduvent@rfi.fr.
Water don't mix, petroleum don't go good for no fish. Oh, it ain't my fault. But BP, big pimpin', big problem, bad presence. Billionaire pirate, boiling point, first pressure. Oh, it ain't my fault. Say, man, who pushed the marsh back? Where the hurricane shelter in the garden at? From Mexico to the boat level wall, something gone wrong and it's somebody off. Oh, it ain't my fault. Skip the city, go to the rock and hide they face. Say the rock crowd out, don't hide in place. City, go to the rock and hide they face. Say the rock crowd out, don't hide in place. City, go to the rock and hide they face. Say the rock crowd out, don't hide in place. Hold on, hold on, it ain't my fault.
Avenir pour le gaz de schiste, c'est la question que l'on pose aujourd'hui dans C'est pas du vent à nos deux invités. Et au moment où Donald Trump annonce la relance de l'extraction du gaz de schiste aux États-Unis, la France, elle, est en passe d'y renoncer définitivement. Le Parlement vient tout juste d'adopter une loi qui entérine l'interdiction de l'extraction de gaz de schiste. Alors pour rappel, il existait déjà une loi votée en 2011, mais qui était jugée incomplète parce qu'elle n'interdisait que l'utilisation de la fracturation hydraulique et elle laissait donc la porte ouverte aux futures nouvelles techniques de forage. Juliette Renaud, vous vous êtes en charge donc de la campagne sur les industries extractives auprès de l'ONG Les Amis de la Terre. Vous vous êtes battue pour obtenir cette loi. Donc, est-ce une victoire ?
Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que ce n'est pas encore une loi, malheureusement. Ça a été juste voté à l'Assemblée nationale. Et vu que la session parlementaire termine dans moins d'un mois, en fait, il y a peu de chances que ça se transforme en loi.
Donc, ça va tomber aux oubliettes.
Donc, ça risque de tomber aux oubliettes. Mais bon, on espère que ça va quand même servir comme référence. Ce qu'il faut savoir, c'est en effet, en 2011, suite aux fortes mobilisations qu'il y a eu dans toute la France contre les projets d'hydrocarbures non conventionnels, on a eu l'adoption d'une loi d'interdiction de la fracturation hydraulique. À l'époque, le Parti socialiste qui était dans l'opposition avait déposé une autre proposition de loi qui, lui, interdisait l'exploration et l'exploitation des gaz et huiles de schiste, quelle que soit la technique. Donc là, après ça, on a eu des promesses, des annonces successives de réformes du code minier, notamment sur la question aussi de la consultation des populations, parce que c'était un peu aussi une des sources de la mobilisation. Et on arrive donc là, début 2017, enfin avec un texte qui a été discuté par l'Assemblée nationale, avec différentes dispositions nouvelles, et notamment un article qui serait ajouté au code minier qui interdirait, alors le titre d'article c'est interdiction des hydrocarbures non conventionnels, en fait il s'agit simplement de l'interdiction de l'exploration et l'exploitation des gaz et huiles de schiste en laissant de côté d'autres hydrocarbures non conventionnels comme le tight gas qui est le gaz de réservoir compact et surtout le gaz de couche qui est donc un peu le cousin du gaz de schiste sauf qu'au lieu d'être emprisonné dans du schiste, il est emprisonné dans du charbon. Et ce gaz de couche, il fait déjà actuellement l'objet d'exploration en Lorraine. Il y a d'autres projets dans le Nord et c'est pour ça qu'avec les pressions qu'il y a eu des industriels, il a été laissé de côté.
Mathieu Ozano, vous êtes le directeur de Shift Project, donc une association qui pousse à la transition énergétique. Est-ce que le fait que la France renonce à son exploitation de gaz de schiste, ça vous paraît être une étape importante dans la transition énergétique ou est-ce que ça vous paraît accessoire ?
Accessoire, non. J'ai beaucoup de mal à imaginer, ça serait une régression assez formidable que le pays où on a fait signer l'accord de Paris, d'autoriser l'exploitation d'une forme quelconque d'hydrocarbures sur notre territoire. Maintenant, il ne faut pas être naïf. Il y a un contexte qui fait que, d'une part, il y a beaucoup trop de gaz aujourd'hui et que le gaz ne vaut pas grand-chose. Donc, il y a peu d'appétit, disons, des industriels pour se lancer dans le développement de formes de gaz qui sont plus coûteuses à développer, ça c'est une chose. Et puis surtout, moi ce qui me préoccupe, c'est beaucoup plus que les problèmes de production, ce sont les problèmes de consommation. Dire qu'on va sortir des énergies fossiles comme on l'a fait en décembre, comme l'ensemble de la communauté internationale l'a fait en décembre dernier à Paris, c'est joli, c'est bien de le dire. Maintenant il faut le faire et le chemin est colossal, immense. Sortir des énergies fossiles, c'est d'abord réaliser à quel point ces énergies fossiles sont omniprésentes dans tous les secteurs d'activité technique humain. Et que donc, en sortir, ça suppose lancer une nouvelle révolution industrielle, une révolution technique, qui est la révolution post-carbone. Il faudrait que les émissions mondiales de CO2, de gaz à effet de serre, décroissent tout de suite, ou le plus rapidement possible, si on veut avoir la moindre chance de ne pas ruiner les conditions de vie sur Terre à travers un dérèglement climatique irréversible.
Et pour vous, la solution immédiate et qui est applicable demain, c'est le changement de consommation ?
Je crois que, en effet, le principal chantier politique, en tout cas le plus délicat et le plus décisif, c'est l'évolution de nos modes de consommation. Nos modes de production, nos modes de consommation, et j'ai envie de dire aussi, et principalement, et d'abord, nos modes de pensée. Et il y a beaucoup de travail.
Juliette Renaud, cette loi donc interdit l'exploitation sur le territoire français du gaz de schiste, mais les entreprises françaises, elles, ont encore la liberté d'aller exploiter ce gaz de schiste à l'étranger, comme c'est le cas de Total, vous donniez l'exemple sur l'Argentine et la Patagonie. Donc finalement, est-ce que ça ne déplace pas juste le problème ?
Alors déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que les avancées qui sont obtenues en France sont très importantes déjà aussi parce qu'elles servent de référent dans d'autres pays. On a des interdictions de la fracturation hydraulique ou des moratoires qui ont été adoptés dans un grand nombre de pays, dans des régions, dans des provinces, dans des villes, dans tous les endroits où il y a des projets. Donc les références, même si en effet techniquement les entreprises françaises peuvent continuer à aller forer ailleurs, les lois qui sont adoptées ici dans un pays important comme la France peuvent avoir un effet d'entraînement ailleurs. Déplacer le problème, en effet, il ne faut pas juste être dans l'hypocrisie de dire nous on n'en produit pas mais c'est pas grave, on va commencer à en importer. Et ça c'est quelque chose qui va nous concerner tout de suite parce qu'on a actuellement des investissements importants qui sont faits notamment dans des terminaux méthaniers comme celui de Dunkerque qui a été inauguré il y a quelques mois en France. Et par ces terminaux, qu'est-ce qu'on va voir arriver ? Le gaz des États-Unis, et ce gaz, c'est à plus de 50% du gaz de schiste. Donc, il faut vraiment, en effet, aborder le problème de façon globale. Et, en effet, la question est d'une part le côté off, production. Actuellement, si on veut limiter le réchauffement climatique à 1,5 ou 2 degrés, ça veut dire qu'on doit laisser 80% des énergies fossiles dans le sang. Ça veut dire tout simplement plus aucun nouvel investissement dans les énergies fossiles qui doit être fait, que ce soit conventionnel ou non conventionnel, en fait. Et aussi dans les infrastructures liées qui nous enfermeraient dans cette dépendance aux énergies fossiles, comme les terminaux méthaniers.
Mais est-ce que vous pensez que dans un moyen terme, les énergies vertes, est-ce que techniquement, l'éolien et le solaire, par exemple, pourront remplacer les énergies fossiles ?
Beaucoup de gens regardent ça aujourd'hui. C'est l'objet d'un vaste débat chez les gens qui se passionnent pour ces questions-là, techniciens, militants. Il est évident, je crois qu'on peut dire, que le scénario négawatt, là, vient à nouveau de le confirmer. On ne peut pas imaginer faire tourner un grand pays techniquement avancé comme la France au niveau de consommation actuel, avec uniquement des énergies renouvelables. Ça supposerait un consensus politique sur des modes de vie que les gens ne sont aujourd'hui,
pas prêt
à accepter. Le principal vecteur de la transition énergétique, c'est accepter de changer nos modes de consommation pour des modes de consommation plus sobres, mais vraiment beaucoup plus sobres. Mais même avec ça, il est difficile d'imaginer faire tourner un vaste système électrique complexe avec des sources d'énergie certes renouvelables, mais qui ont un gros défaut, c'est qu'elles ne marchent pas tout le temps. Le vent, ça souffle pas tout le temps et le soleil se couche. Et c'est un enjeu technique sur lequel il faut pas raconter n'importe quoi et on n'a pas commencé vraiment à explorer ce qu'on peut faire.
Juliette Renaud, vous partagez l'avis de Mathieu Ozano ?
L'essentiel, c'est de comprendre qu'il s'agit avant tout de choix politiques et pas forcément de choix techniques. La technique, on a toujours des choses qui évoluent, etc. Donc on ne peut pas non plus complètement se cacher derrière la technique, même si en effet, aujourd'hui, je suis d'accord sur le fait qu'on ne peut pas remplacer les énergies fossiles par les énergies renouvelables.
C'est pour ça que on ne sait pas faire.
C'est pour ça que le triptyque qui est important, c'est sobriété, donc réduire la consommation, efficacité, c'est-à-dire éviter toutes les pertes, et notamment, là, il y a un grand espace de progrès dans ce qui est par exemple l'efficacité énergétique, l'isolation thermique des logements, etc. Et donc le développement des énergies renouvelables. Mais quel est le choix politique aujourd'hui ? C'est est-ce qu'on se tourne, est-ce qu'on investit dans la recherche de ces solutions et dans la construction de ce monde nouveau ? Ou est-ce qu'on continue à mettre de l'argent et de l'argent public, parce que là on parle aussi de grand nombre de subventions, que ce soit au niveau français, européen, dans les énergies fossiles et dans les infrastructures liées. Ça, c'est, je pense que c'est ça vraiment la disjonctive qui existe aujourd'hui. Et les débats qu'on a eu à l'Assemblée nationale dans le cadre de la réforme du code minier montrent qu'en effet, ce changement de mentalité, il n'est pas été opéré par tout décideur politique et ils sont loin d'être prêts à abandonner ce monde actuel et les hydrocarbures.
Il faut les convaincre. Il faut les travailler au corps.
C'est pas du vent. Le magazine de l'environnement sur RFI.
La Pologne a longtemps été annoncée comme le nouvel Eldorado européen du secteur du schiste, une exploitation avec un fort impact environnemental qui a d'ailleurs valu à la Pologne d'être montrée du doigt comme le mauvais élève par la Commission européenne. Mais ces deux dernières années, toutes les entreprises pétrolières ont jeté l'éponge, notamment la compagnie américaine Chevron qui a stoppé son exploration. Un choix qui soulage la société civile engagée contre le gaz de schiste. En 2013, Varsovie accueillait d'ailleurs la conférence climat et à cette occasion, notre reporter Maja Zimanowska avait rencontré les militants anti-gaz de schiste.
C'est une bataille de David contre Goliath. Voilà plus de 4 mois que les habitants de Jorjavluv tiennent tête au géant gazier Chevron, en se relayant 24 heures sur 24 pour bloquer l'accès au champ où l'entreprise américaine devait chercher puis exploiter le gaz de schiste. Sous une tente militaire qui leur sert de QG, les habitants de Jorjavluv montent la garde, qu'il vente ou qu'il pleuve, comme ce jour-là. Wiesław Gren est propriétaire d'un terrain de 300 hectares où il pratique l'agriculture biologique. Et le gaz de schiste, il n'est pas pour.
Gospodaruję 700 metrów tutaj od tego odwiertu. No i nie podoba mi się właśnie to, że po pierwsze, że
mon terrain se trouve à 700 mètres du forage. Et ce qui ne me plaît pas, c'est que si cette méthode est si inoffensive pour l'environnement, alors pourquoi il commence par vouloir construire une barrière et se séparer des habitants?
Tutaj jest bardzo ładne okolice.
Notre région est belle, des terrains qui sont classés Natura 2000. Nous avons peur pour notre travail, pour l'équilibre de notre écosystème. Nous avons peur que nos routes ne soient pas préparées pour subir le va-et-vient des poids lourds. C'était un coin paisible ici et personne ne veut se retrouver tout d'un coup au milieu d'un bassin minier.
D'après les sondages, plus de 75% des Polonais seraient favorables à l'extraction du gaz. Cependant, la pollution de l'eau devient un argument en faveur des mécontents. Andrzej Bank, ingénieur de métier, vient d'acheter une résidence secondaire à Jorjavluv, où il compte s'installer pour sa retraite. Il voit d'un très mauvais œil les ambitions de Chevron dans la région.
Pod nami są główne zbiorniki wód podziemnych.
Sous nos pieds se trouvent les nappes phréatiques les plus importantes de Pologne, des eaux classées. Même le calcul de probabilité nous indique qu'il suffit d'un forage défectueux ou deux pour polluer toute l'eau d'ici à Varsovie. C'est un risque énorme. La personne qui a donné cette concession devrait être traînée devant un tribunal. Des choses comme ça devraient être interdites.
Nie wolno robić takich rzeczy.
Chevron n'est pas le seul à avoir jeté l'éponge en Pologne, c'est aussi le cas de ExxonMobil, Total, Marathon Oil, Talisman ou encore Eni. Mathieu Ozano, est-ce que c'est la marque d'un début de renoncement ?
Pas du tout. C'est la géologie qui a décidé de l'échec de ces pétroliers dans ce pays. Pour des raisons bêtement géologiques, l'exploitation était trop compliquée, impossible en fait, à des conditions économiques intéressantes. Donc les pétroliers ont plié bagage.
Parce que donc il y avait eu un faux espoir en fait. On a cru qu'il pouvait y avoir quelque chose de facilement accessible et en fait non.
Voilà, ils ont fait des forages exploratoires, ils ont fait leurs petits calculs, ils ont vu que c'était pas rentable, donc ils sont partis. Il faut comprendre qu'il y a un concurrent de taille, donc c'est le gaz russe qui lui est pas cher et très abondant. Et en plus, la demande n'était pas là, donc il n'y avait aucune raison, peut-être que ça reviendra, mais il n'y avait aucune raison pour s'entêter pour ces pétroliers.
Qui a démoli aussi les espoirs de la part de la Pologne, qui espérait bien avoir une certaine autonomie vis-à-vis de son voisin russe, en ayant sa propre production de gaz.
Ouais, alors ils ont beaucoup de charbon. Oui, ça a pu être un espoir, effectivement, ouais. ça a pu être un enjeu.
Est-ce que là, l'annonce de Donald Trump va impliquer une nouvelle guerre entre la Russie et les États-Unis ?
Ben non, ils sont partis pour être copains, là. Puisque Rex Tillerson, le patron de Esso, la plus grande compagnie pétrolière occidentale, Exxon, prend la tête du département d'État, précisément parce qu'il s'entend très bien avec Vladimir Poutine pour développer les pétroles extrêmes et non conventionnels de Russie.
Donc ça, c'est nouveau quand même, cette alliance.
Ça date de 2011. En fait, l'histoire du pétrole avance. Hein, je disais que c'était une ressource tarissable, le pétrole et le gaz. Il se trouve que Exxon et la Russie ont un point commun, c'est que leurs ressources stagnent, voire dans le cas d'Exxon, s'épuisent. La production de Exxon, qui est pourtant la première compagnie occidentale de pétrole, sa production de pétrole décline, donc elle a besoin de faire copain-copain avec le Kremlin, et le Kremlin a besoin des capitaux et de l'expertise des pétroliers américains pour aller développer, pour aller chercher les derniers fruits tout en haut de l'arbre inaccessible que sont le pétrole du cercle, au-delà du cercle polaire arctique, dans l'océan, ou les pétroles et gaz de schiste de Sibérie occidentale.
Juliette Renaud, quand vous avez vu comment ça a été long d'obtenir une bataille pour l'interdiction complète du gaz de schiste en France, est-ce que vous n'êtes pas découragée de savoir qu'il va falloir s'attaquer à des géants comme la Russie ou les États-Unis ?
Bah, les batailles sur ce terrain sont toujours longues, donc on en gagne petit à petit. Ce qui est sûr, c'est qu'en effet, les enjeux géopolitiques qu'il y a derrière l'exploitation de ces ressources sont majeurs et pas seulement liés à la Russie.
Merci Juliette Renaud, merci Mathieu Ozano pour votre participation. Merci également à François Porcheron qui a réalisé cette émission. Vous pouvez retrouver toutes nos émissions sur les réseaux sociaux et sur le site internet www.rfi.fr. Rendez-vous le week-end prochain sur RFI, même planète, même heure.
Appelez-nous, exprimez-vous.